Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition consacrée aux nouvelles technologies et à leurs enjeux géopolitiques. Regard sur les conséquences des bouleversements qu'elles induisent sur les enjeux de puissance qui font et défont l'ordre international. Regard sur les effets politiques et stratégiques de cette révolution, à la fois formidable multiplicateur de puissance et réservoir inédit de vulnérabilité. Une révolution qui, si elle établit une supériorité américaine, n'en laisse pas moins percevoir son point le plus saillant, qui est l'ascension de la Chine au rang de superpuissance technologique. Pour cette édition réalisée en partenariat avec la revue Questions internationales, dont le dernier numéro a pour titre Révolution technologique d'un monde à l'autre, nos invités par téléphone depuis Lyon, Stéphane Grimbach, directeur de recherche à l'INRIA, spécialiste des données, co-directeur de l'Institut des systèmes complexes à l'École normale supérieure de Lyon. Bonjour.
Bonjour.
En studio, Serge Sûr, directeur de l'annuaire français de relations internationales et rédacteur en chef de la revue Questions internationales. Bonjour.
Bonjour.
Emmanuel Kivad, entrepreneur, officier de réserve, futur directeur de l'Agence de l'innovation de défense du ministère des Armées. Et en attente de cette fonction, Monsieur Kivad s'exprime à son titre personnel. Bonjour.
Bonjour.
Stéphane Grimbach l'écrit dans son article, l'adaptation au changement climatique et la transformation numérique constituent deux des principaux défis de notre époque. Les territoires et les frontières sont remis en cause au profit d'une nouvelle dynamique géopolitique. Alors, espionnage, destruction, propagande, attaque, Internet n'est-il finalement que le miroir des tensions géopolitiques, Stéphane Grimbach, est un facteur de reconfiguration des relations internationales?
Oui, je crois qu'Internet est effectivement un facteur de reconfiguration des relations internationales parce qu'il déplace les lieux de pouvoir en concentrant les données, l'information sur les territoires, hors des territoires. Donc si on prend l'exemple des grandes plateformes comme Google, Apple ou bien Tencent en Chine, elles recueillent les données de milliards d'utilisateurs sous le contrôle d'une entreprise et interviennent dans de nombreux aspects de la vie de leurs utilisateurs. Elles sont aussi le lien avec de nombreuses entreprises et en ce sens, elles induisent de nouvelles normes sur des territoires à distance, des normes qui peuvent rentrer en conflit avec le droit de ces territoires. Donc effectivement, il y a une question de souveraineté qui est nouvelle. Alors, ce que je voudrais souligner, c'est le lien frappant entre cette question de souveraineté par des pouvoirs globaux et la question du climat, qui elle aussi est une question globale pour laquelle la souveraineté sur le territoire a beaucoup moins de sens qu'elle n'en avait autrefois.
Serge Sûr, réaction à ce que vient de dire Stéphane Grimbach et finalement ce brouillage, entre guillemets, de ce à quoi on assistait depuis un certain nombre d'années avec l'arrivée de ces nouvelles technologies, c'est ce qui a justifié ce numéro spécial, numéro double de Questions internationales.
Oui, alors écoutez, réaction aussi à votre présentation générale, parce que nous ne nous sommes pas simplement préoccupés, bien sûr, de questions techniques. Mmh. Ce numéro n'est pas un numéro technique, il traite beaucoup plus des conséquences d'ordre politique, économique, social, géopolitique, des changements technologiques. Et je dirais même que son compas est plus large que ça, puisque nous nous intéressons à la dimension sociétale. Et cette dimension sociétale, c'est en fait un changement de civilisation. Et c'est cela qui nous a retenus, c'est le fait que nous étions en train de glisser vers un monde nouveau. Le terme de révolution est peut-être un peu excessif parce que c'est une transition. Il y a des changements qui se déroulent de façon progressive. Et en réalité, ce qu'il faut bien voir, c'est que la civilisation occidentale, qui reste dominante dans ce domaine, a toujours été en cours de changement. Elle a toujours été en cours de métamorphose. Elle a d'abord été une civilisation agricole, avec le bois comme énergie, puis industrielle, avec le charbon, les chemins de fer, les industries, etc. Puis pétrolière, avec l'électricité. Et aujourd'hui, nous passons à autre chose, qui est le numérique. Mais nous avons un grand problème, qui se relie d'ailleurs aux questions du climat, c'est la question de l'énergie. Parce que nous n'arrivons pas à sortir du pétrole. Nous n'arrivons pas à sortir des hydrocarbures. On a pu penser à un moment donné que le nucléaire allait représenter une troisième phase de l'énergie. Et puis on se rend compte que, en réalité, ce n'est peut-être pas définitif, mais en tout cas, pour le moment, il paraît dans une impasse. Donc nous n'arrivons pas à sortir du pétrole. Et tant que nous n'aurons pas trouvé l'énergie qui correspondent aux changements technologiques en cours, eh bien, nous resterons dans une situation un petit peu de blocage ou de contradiction, si je puis dire. Et je crois que c'est ce qu'essaie d'illustrer ce numéro, en soulignant à la fois les avancées, les transformations sur le plan de la sociabilité, des rapports de travail, des rapports individuels, des rapports avec la nature, mais aussi les blocages, les craintes qui persistent et les difficultés d'organiser ce changement. Alors ça met en cause les États, mais ça ne met pas en cause seulement les États, ça met en cause beaucoup plus largement les sociétés humaines.
Emmanuel Kiva.
Oui, je pense effectivement qu'on est en train de rentrer dans une nouvelle ère, mais que le fait de rentrer dans une nouvelle ère est une constante finalement de l'histoire des sociétés. Vous parliez tout à l'heure de la transcendance finalement des données, du fait que ce sont les grandes plateformes, GAFA, BATX et autres, qui aujourd'hui finalement transcendent les États. On voit ça dans tous les domaines, c'est-à-dire que ce qui était régalien auparavant, aujourd'hui, échappe à cette logique-là. On peut prendre l'exemple de l'espace. Jusqu'à maintenant, qui aurait pu imaginer qu'un acteur privé, aujourd'hui, serait capable de concurrencer la NASA et même de devenir son prestataire.
Vous pensez à quelqu'un en particulier ?
Je pense à SpaceX, mais pas que. Je pense aussi aux sites internet qu'on voit fleurir et qui vous proposent directement d'aller assembler vos propres satellites avec des composants que tout un chacun peut obtenir. Il est clair qu'aujourd'hui, dans les domaines les plus réservés qu'on pensait être consacrés aux États, on assiste à une démocratisation. Vous savez, jusqu'à maintenant, sur un champ de bataille, il y avait une constante qui était la communication, et la communication c'était l'apanage des militaires. Aujourd'hui, chacun a un ordinateur, un super ordinateur dans sa poche, et peut communiquer sans avoir besoin de passer par des réseaux professionnels. Et ça change considérablement. Donc cette transcendance des données, des technologies, on la voit partout, et le défi ça va être d'imaginer et de se projeter au-delà. Vous avez un théoricien qui s'appelle Werner Vinge qui avait écrit le mur de la singularité, pas la singularité au sens intelligence artificielle et transhumanisme, mais la singularité au sens du fait que la réalité technologique a tellement rattrapé notre quotidien qu'on a du mal à se projeter au-delà. Mmh. Et donc c'est ce défi-là qui nous attend.
Alors, avant d'en venir à effectivement ces défis et ce à quoi il faut s'attendre, Stéphane Grimbach, j'aimerais revenir sur la notion que vous évoquiez précédemment, la question de souveraineté. Bon, c'est vrai que le cyberespace marque d'une certaine manière la fin des frontières. Est-ce que parler de souveraineté nationale a encore du sens dans le monde numérisé d'aujourd'hui, Stéphane Grimbach ?
En tout cas, on hérite d'un système de souveraineté et on essaye de le transposer ou de le faire continuer à vivre dans un nouveau monde. Je pense que les mots transition et révolution ont été évoqués. Je crois que ce qui est vraiment important de comprendre, c'est qu'on change de paradigme. Il y a quelque chose de l'ordre d'une révolution copernicienne qui se joue. On le voit d'ailleurs dans les débats qui ont lieu avec la démission de Nicolas Hulot en ce moment. Ce changement de paradigme fait qu'un certain nombre des outils que nous avons pour raisonner sur le monde sont devenus caducs, n'ont plus de sens, n'ont plus d'effet. Donc repenser le monde impose de réfléchir à de nouveaux concepts, et si on parle de souveraineté, on doit réfléchir effectivement à une nouvelle forme de souveraineté. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est le passage d'un monde qui était découpé en territoires, donc des surfaces de la planète essentiellement, sur lesquelles il y avait une souveraineté politique, à un monde qui est fondamentalement un monde de réseau, où se développent de nouveaux territoires, mais qui ne sont plus des surfaces de la planète, mais l'empreinte, par exemple, d'un acteur comme Google sur la planète forme un territoire. Et donc c'est ces territoires-là qu'il va falloir appréhender et redéfinir des notions de souveraineté et l'interaction qu'ont ces nouveaux territoires de flux avec les territoires de la géographie. Et là encore, on retrouve le parallèle entre le numérique et les données et le changement climatique et les problèmes de l'écosystème qui vont bien au-delà des questions de l'énergie que nous avons évoquées, mais qui touchent une transformation physico-chimique de l'écosystème qui est assez globale.
Alors, transformation de l'écosystème, Serge Sure, ce à quoi on assiste est à une construction d'un système nerveux planétaire. Et même si tout le monde déclare aujourd'hui être opposé à la mondialisation, on a atteint un niveau de connexion absolument inégalé.
Tout à fait. Mais moi, je voudrais revenir un instant sur la question de la souveraineté. Parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire M. Grumbach sur l'idée qu'on ne dépasse pas véritablement la souveraineté, on la transforme. Mais elle subsiste. Regardez, la Chine parvient parfaitement à résister à l'implantation de Google, négocie avec Google pour lui imposer des conditions. Donc si un État a la volonté de le faire, il peut parfaitement résister. Le problème de l'Europe, par exemple, c'est qu'elle n'a pas du tout cette volonté. En réalité, ces changements, ils sont amorcés depuis longtemps. Prenons les questions spatiales. Premièrement, le double usage, civil et militaire, a toujours existé. Il existe depuis le départ. Et ce qui est civil peut devenir demain militaire et réciproquement. Simplement, la dimension civile s'est beaucoup développée depuis quelques années. Mais l'espace, il reste encadré par le traité de 67, qui a maintenant un demi-siècle, qui est une sorte de charte du droit de l'espace et qui est parfaitement valide, que personne ne remet en cause. Et au fond, un État, ça n'est pas simplement un territoire. Un État, c'est aussi un ordre juridique. Et la manière dont son ordre juridique est agencé, dont il le protège, dont il le projette, définit sa souveraineté. Alors de ce point de vue, les États-Unis sont évidemment particulièrement aptes à projeter leur ordre juridique. On voit bien qu'ils développent leur droit, qu'ils pratiquent ce qu'on appelle l'extraterritorialité, qui en réalité n'est pas vraiment une extraterritorialité, parce que tout passe par le territoire américain, ne serait-ce qu'avec le dollar. Donc c'est une territorialité élargie ou extensive, si l'on veut. Mais cette projection de son ordre juridique est une des dimensions nouvelles de la souveraineté. Mais pour ma part, je considère que les États restent toujours les acteurs principaux.
Alors l'extraterritorialité, c'est une chose. Je me tourne vers vous, Emmanuel Kiva. Mais ce que l'on voit tout de même avec Internet, ce sont des États qui l'utilisent pour éteindre des centrales électriques, ralentir une usine, se financer à peu de frais. Les offensives sont, somme toute, assez peu coûteuses, rarement suivies de riposte, difficiles à attribuer et faciles à nier. Est-ce qu'il faut une régulation internationale, des traités et finalement, les plus offensifs parmi les acteurs, sont-ils prêts à accepter des traités?
Les traités n'engagent que ceux qui les signent, et évidemment. On a une nouvelle dimension aujourd'hui qui est due au fait qu'on a une interconnexion complète, finalement, entre le monde immatériel, le monde virtuel et le monde réel. Les systèmes, on pourrait les qualifier aujourd'hui de cyberphysiques. Vous avez parlé d'attaques. Effectivement, aujourd'hui, un virus informatique peut avoir des conséquences extrêmement réelles. Je pense par exemple au virus Stuxnet, qui il y a quelques années avait été introduit dans les centrales, enfin dans les centrifugeuses iraniennes supposées fabriquer du combustible pour l'armement nucléaire. Un virus informatique complètement immatériel peut faire exploser une usine en déréglant complètement ces machines. Donc cette hyperconnexion, c'est en fait une hyper vulnérabilité. Et à partir du moment où on a cette hyperconnexion, ça devient évidemment extrêmement difficile de la réguler. Maintenant, si on parle des États, comme on parle de la dissuasion nucléaire, on pourrait parler d'une cyber deterrence, c'est-à-dire d'une dissuasion qui est immatérielle. En d'autres termes, la menace qui pèse sur les États pourrait être atténuée par le fait que les moyens de riposte sont tels qu'ils dissuaderaient tout pays de ne pas respecter les traités en question. Dès lors que vous pouvez influer directement sur non seulement l'économie, mais également le fonctionnement des infrastructures critiques en particulier, eh bien on se rend compte que la notion de dissuasion cyber prend du sens. Et donc je pense qu'il va y avoir un nouvel équilibre des forces. Est-ce que ça sera via des traités? Est-ce que ça sera via des signaux faibles ou forts envoyés par tel ou tel État? Ça, je ne sais pas.
Stéphane Grumbach, vous souhaitez ajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit sur l'aspect peut-être juridique?
Oui, c'est intéressant cette notion d'extraterritorialité, parce que de même que les données permettent de contrôler à distance, dans les problèmes de souveraineté qui se sont posés récemment et qui ont opposé régulièrement des États aux grandes plateformes, y compris l'État américain lui-même, touche effectivement des questions d'extraterritorialité et plein de questions liées au territoire qui sont, ce sont les données de citoyens de quel territoire, les données sont stockées sur quel autre territoire, et enfin qui où est le siège social de la société qui traite ces données. Donc effectivement, on voit une avancée de l'extraterritorialité par rapport au territoire de la géographie traditionnelle, mais qui correspond à des nouvelles territorialités sur les réseaux.
Vous écoutez RFI.
RFI. Géopolitique.
Marie-France Chatin.
Alors, on évoquait la question des données avec le monopole finalement américain sur cette question. Serge Sûr, vous parliez de la façon dont la Chine parvenait à se protéger malgré ce mur qu'elle est parvenue à établir. Il est acquis aujourd'hui que beaucoup de données passent malgré tout par les États-Unis, si je ne me trompe.
Oui, mais la Chine a ses propres moyens. Et regardez, par exemple, en ce qui concerne la reconnaissance faciale, c'est elle qui développe des contrats aujourd'hui et qui produit les données en question. Et donc, elle est aussi productrice de données. Simplement, je ne pense pas qu'elle soit en mesure de rivaliser pour l'instant avec les États-Unis, mais elle a clairement un programme de recherche-développement qui vise à être en compétition avec les États-Unis. Pour le reste, moi, je ne parlerai pas d'extraterritorialité, je parlerai plutôt de déterritorialisation, ce qui n'est pas du tout la même chose. Parce que ça veut dire que le territoire joue toujours un rôle, mais qu'il est projeté. Il est projeté d'une façon indéfinie, et c'est le cas notamment des États-Unis. Alors, pour ce qui est des traités, est-ce que les traités, c'est la bonne solution? C'est ce que souhaiteraient, par exemple, les Russes. Les pays qui sont de systèmes très, très étatisés ont une préférence pour les traités parce que ça assure un contrôle très fort des autorités publiques sur les processus en question. Mais ça n'est pas la direction qu'on prend. Soit il y a des mesures unilatérales qui sont prises par les États les plus puissants et qui visent à s'imposer aux autres. Regardons par exemple le droit d'Internet, c'est largement le droit californien. Et ça convient aux États dans l'ensemble, parce qu'ils considèrent que c'est une bonne formule. Et soit des mesures unilatérales, soit alors un droit plus ou moins informel qui provient des entreprises elles-mêmes. Il y a une sorte de bonne pratique de droit qui se développe, dont on ne sait pas comment exactement le qualifier, mais qui provient des entreprises elles-mêmes et qui, le cas échéant, peut être cautionné par la jurisprudence, par l'arbitrage ou par des États. Mais les traités présentent des inconvénients, parce que soit on a des traités de principe, comme le traité sur l'espace, qui est un excellent traité, qui est bref, qui contient des principes. Et on voit bien qu'il comporte un certain nombre de lacunes, mais ces lacunes peuvent être complétées au fur et à mesure par la pratique, par des accords plus ou moins informels. Ou bien alors, on veut faire un traité qui prévoit tout, comme c'est le cas pour le droit de la mer, par exemple, et à ce moment-là, on est très vite obsolète, parce que les développements technologiques arrivent très vite, et que donc, on ne sait plus s'adapter. Et donc, au-delà des problèmes politiques qui sont liés à l'existence même des traités et des difficultés que ça soulève, il y a la difficulté technique de savoir comment formuler un traité sur des questions qui sont glissantes, qui sont en évolution constante.
Alors, il nous reste une minute et demie pour terminer cette première partie d'émission et je sais que vous n'allez pas pouvoir apporter une réponse complète à ma question, Emmanuel Kiva. Je la pose malgré tout et on poursuivra dans la deuxième partie de l'émission. Avec les nouvelles technologies, il y a course à la créativité. Est-ce qu'il y a pour autant course à l'armement ?
Absolument. Les nouvelles technologies aujourd'hui deviennent disponibles pour tout un chacun. Et donc c'est le cycle d'apparition de ces nouvelles technologies et de l'innovation qui fait que si elles sont disponibles pour nous, elles sont également disponibles pour nos adversaires. Ça, on parle des nouvelles technologies disponibles dans le monde civil, mais également dans le monde militaire. Et Poutine avait dit, celui qui maîtrisera l'intelligence artificielle maîtrisera le monde. Si ça n'est pas une course à l'armement, je ne sais pas ce que c'est.
Effectivement, est-ce que celui qui disposera ou ira le plus loin dans l'intelligence artificielle dominera le monde ? Alors, l'intelligence artificielle, c'est quoi ? Si on devait y apporter une définition rapidement, et on poursuivra dans la deuxième partie d'émission, Emmanuel Kiva.
Alors, l'intelligence artificielle, c'est aujourd'hui tout et n'importe quoi. Ça n'est certainement pas le fait pour une machine de devenir intelligente, mais c'est le fait de faire mieux, plus vite, des tâches complexes que l'homme soit ne sait pas faire, soit mettrait trop de temps à faire. Donc on parle d'IA faible, d'intelligence artificielle faible, et effectivement, il y a beaucoup de mythes autour de cela, mais on pourra en discuter plus tard.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités, Emmanuel Kiva, Serge Sûr et Stéphane Grimbach, dans quelques instants.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur les nouvelles technologies et leurs enjeux géopolitiques pour une édition réalisée en partenariat avec la revue Question Internationale dont le dernier numéro a pour titre Révolution technologique d'un monde à l'autre. Nous retrouvons nos invités par téléphone depuis Lyon, Stéphane Grimbach, directeur de recherche à l'INRIA, spécialiste des données, co-directeur de l'Institut des systèmes complexes à l'École normale supérieure de Lyon, Serge Sûr, directeur de l'annuaire français des relations internationales et rédacteur en chef de la revue Question Internationale, et Emmanuel Kiva, entrepreneur, officier de réserve, futur directeur de l'Agence de l'innovation de défense du ministère des Armées. Emmanuel Kiva, qui, dans l'attente de cette fonction, s'exprime à titre personnel pour cette émission. Emmanuel Kiva, on a terminé la première partie de l'émission sur les notions de défense avec ce constat qui est que les nouvelles technologies marquent une course à la créativité et au-delà, course à l'armement. Qu'est-ce que l'on sait de la façon dont la guerre va évoluer avec l'essor de l'intelligence artificielle? Vous mentionnez dans l'article que vous avez signé dans cette revue Question Internationale le domaine quantique et la puissance extraordinairement forte qui se développe avec la Chine qui a récemment annoncé avoir testé un satellite de chiffrement quantique capable de transmettre un signal inviolable sur plusieurs milliers de kilomètres. Pékin qui a aussi annoncé le développement d'un radar quantique qui mettrait en échec toutes les stratégies de furtivité connues à ce jour. Le domaine quantique, un domaine générateur de ruptures majeures dans l'art de la guerre. Emmanuel Kiva.
Oui, je pense qu'il y a aujourd'hui deux phénomènes qui sont simultanés. Le premier, c'est la démocratisation de l'accès à la technologie et à des technologies qui peuvent être des technologies génératrices de ruptures stratégiques, et l'intelligence artificielle en fait partie. Et puis, ce que l'on pourrait appeler des game changers, des ruptures technologiques qui engendrent des ruptures stratégiques, que sont par exemple le quantique, mais que sont aussi l'intelligence artificielle, que sont aussi l'hypervélocité, on pourra en parler, donc des armes capables d'aller jusqu'à Mach 10, qui sont deux phénomènes différents, mais qui sont deux phénomènes parallèles. Si je reviens un instant sur l'intelligence artificielle, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a une espèce d'alignement de planètes qui fait que tout le monde parle de cette technologie-là. Pourquoi ? Parce que, d'abord, on a des données en nombre. Ensuite, on a des technologies qui sont matures et connues, et d'ailleurs connues depuis les années 50. Hein. Mmh. Le premier réseau de neurones, c'était en 57, le perceptron de Rosenblatt. Depuis, eh bien, on a progressé sur ces technologies, mais les bases sont toujours les mêmes. Et puis, on a la possibilité de calculer. Vous savez que l'ordinateur le plus puissant du monde aujourd'hui, alors sauf erreur de ma part, doit être aux environs de 122 pétaflops, c'est-à-dire 122 millions de milliards d'opérations par seconde, ce qui est vertigineux. Mais l'ordinateur que vous avez demain sur votre bureau, eh bien, c'est plusieurs milliers de milliards d'opérations par seconde. Ce sont des puces teraflopiques. Et donc aujourd'hui, le calcul, finalement, devient gratuit. Donc cette conjonction de ces trois facteurs-là fait que tout un chacun a à la fois les outils et la possibilité de faire de l'intelligence artificielle qui fonctionne.
Alors tout un chacun
Tout un chacun. Vous allez sur Internet, vous achetez un processeur TensorFlow, par exemple, chez Google, et vous avez en open source un kit de développement logiciel, vous apprenez à programmer et vous savez faire un réseau de neurones. Je peux vous indiquer les sources et puis on se revoit dans un mois et je vous donne le défi d'en faire un et vous y arriverez. Et vous y arriverez parce qu'aujourd'hui, il y a des outils, des couches logicielles qui permettent de le faire. Ça correspond au cycle des technologies. Il y a une courbe, alors c'est de la radio, c'est difficile de décrire une courbe, mais il y a une courbe qui s'appelle la courbe de Gartner qui décrit les cycles d'apparition des technologies. Alors vous avez d'abord une surexcitation technologique quand vous avez des nouvelles technos qui apparaissent, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l'intelligence artificielle par exemple. Et puis ensuite, vous avez ce qu'on appelle le puits de la désillusion. C'est-à-dire que quand vous avez vraiment accès à cette technologie, vous vous rendez compte que finalement, c'était pas au niveau de vos attentes. C'est ce qui est arrivé il y a quelques années sur la réalité virtuelle, où les casques étaient lourds, chers, où il y avait peu de résolution. Et puis finalement, eh bien, tout cela mature et on voit apparaître des outils opérationnels. Ça, c'est une constante dans toutes les technologies. Le problème, c'est que quand les outils opérationnels apparaissent, ils sont disponibles pour tout le monde. Et donc, en particulier pour nos ennemis. Donc, vous parliez tout à l'heure de course à la créativité, de course à l'armement. Le métier de ceux qui pensent l'innovation de défense, et leur défi, c'est de pouvoir identifier très en amont ces technologies-là, et d'en identifier également les parades. Vous savez qu'aujourd'hui, Daesh utilise des drones, utilise de la fabrication additive, de l'impression 3D pour faire des armes, utilise des systèmes de domotique qu'on peut programmer avec de l'intelligence artificielle pour faire déclencher à distance des engins explosifs improvisés. Donc on a un premier défi qui est à la fois un défi et une opportunité, capturer l'innovation civile, mais la capturer suffisamment en amont. Et puis vous avez ces grands programmes, le quantique, l'hypervélocité. Le quantique, c'est quelque chose de fabuleux. C'est à la fois pouvoir disposer d'ordinateurs qui cassent tous les codes, toute la cryptologie aujourd'hui connue, à partir du moment où ce n'est pas une cryptologie quantique. Et c'est aussi le fait, comme vous le disiez, d'avoir des outils qui reposent sur des principes d'intrication quantique qui font que, bien finalement, vous allez pouvoir détecter un avion, même furtif, du fait de sa présence et non du fait de sa forme. Le principe quantique fait que vous allez pouvoir détecter de quoi il est fait. Donc l'identification devient également possible. Et ça, ça change considérablement les rapports stratégiques entre les puissances. Et aujourd'hui, les grandes puissances, comme la Russie, comme la Chine, comme les États-Unis, et comme l'Europe aussi d'ailleurs, sont en train de réfléchir à la manière dont on peut accélérer cet accès au quantique. Microsoft développe un langage pour programmer un ordinateur quantique qui n'existe pas encore.
Alors vous parlez d'une vitesse supérieure, ou en tout cas qui pourrait... Moi j'avais noté Mach 5, mais là vous êtes en train de me parler du double. Alors peut-être qu'entre la rédaction de l'article, voilà, Mach 10, Mach 1 c'est le mur du son.
C'est ça. On va faire simple, c'est pouvoir atteindre n'importe quel point du globe en moins d'une heure. C'est des vitesses de l'ordre de 10 000 km/h.
Donc il est évident que l'hypervélocité a pour conséquence d'engager une course à l'armement vers le développement d'armes de type laser ou canons électromagnétiques, seule arme qui pourrait neutraliser un missile hypersonique. Est-ce que tout cela met à mal finalement la dissuasion nucléaire, Emmanuel Kiva ?
La met à mal, non, parce que l'arme nucléaire est toujours une arme
ou la rente obsolète,
donnant emploi d'ailleurs. Oui. Ses effets sont tellement terrifiants qu'il vaut mieux ne pas l'utiliser. Mais maintenant, imaginez simplement que la puissance qui aura des armes hypervéloces et qui va les combiner avec des techniques nucléaires, évidemment, ça va changer la donne. Et aujourd'hui, les États-Unis, et la Russie et la Chine sont dans cette logique-là. La Chine, d'ailleurs, vient d'inaugurer une nouvelle soufflerie permettant de faire des essais pour l'hypervélocité. Donc, encore une fois, entre Mach 6 et Mach 10. Mmh. Vous parliez tout à l'heure de course à l'armement. Je ne pense pas que la dissuasion nucléaire, certainement pas, devienne obsolète. Par contre, il va falloir l'accompagner des mesures qui permettent de s'assurer de la maîtrise de son espace, et en particulier de l'interception de ces engins hypervéloces. Et pour intercepter un engin hypervéloce, il faut quoi ? Il faut un laser, parce que les systèmes actuels ne fonctionnent plus. D'abord, il faut le détecter, hein. Ensuite, il faut pouvoir l'intercepter. Ou bien, il faut ce dont vous parliez, un canon électromagnétique, c'est-à-dire un engin d'une portée de 400 km, hein, quand même, hein, pour vous donner une idée, et qui va projeter, non pas un obus d'ailleurs, puisque l'effet est uniquement cinétique, mais un projectile à des vitesses de l'ordre de 3000 m/s en sortie de bouche. Et ça, ça permet, si on arrive à le faire en rafale, d'intercepter un missile hypervéloce. Donc oui, la dissuasion nucléaire reste primordiale, mais elle est remise en cause par l'association avec des armes de type hypervéloce. Et ça, ça change considérablement les équilibres stratégiques.
Alors, Stéphane Grimbach, la Chine, on parlait tout à l'heure du développement de l'intelligence artificielle avec Vladimir Poutine qui, lors du sommet des BRICS en Chine à l'été 2017, avait déclaré que le pays qui deviendra leader de ce secteur sera celui qui dominera le monde. La Chine, elle investit massivement dans l'intelligence artificielle. L'été 2017, donc il y a un an, Pékin lançait un plan doté de 148 milliards de dollars visant au leadership mondial de la Chine sur l'intelligence artificielle en 2030. Un commentaire ?
Oui, il faut comprendre qu'en fait, nous ne percevons pas vraiment ce qui se passe en Chine. Nous avons les yeux tournés vers les États-Unis. Nous voyons que nous dépendons des systèmes américains. Nous savons qu'il se passe quelque chose en Chine, mais sans trop comprendre. Du point de vue du numérique, la Chine ressemble beaucoup plus aux États-Unis qu'elle n'en diffère. Pourquoi ? Parce qu'elle a la maîtrise de son territoire, les données du territoire chinois comme celui du territoire américain sont gérées par des entreprises nationales. Et d'autre part, elle a la même stratégie que les États-Unis, qui est d'aller hors frontières avec ces systèmes pour offrir des services et récolter de la donnée. L'emprise des services chinois aujourd'hui hors frontières est bien sûr très inférieure à celle des systèmes américains, mais la stratégie est équivalente. Alors, ils ont la même maîtrise et la même capacité à avoir des sociétés qui ont 1 milliard d'utilisateurs, qui fonctionnent avec des services qui sont excellents. Ils ont été développés initialement à la fin des années 90. Baidu date de 2000, par exemple. Google de 98. Donc, ils ont vraiment talonné les États-Unis dans le montage de ces sociétés. Mais aujourd'hui, beaucoup des services innovants sont développés en Chine. Tout un tas de choses liées à l'économie du partage, au paiement, sont chinoises aujourd'hui et l'investissement dans ces systèmes-là est majeur. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces entreprises, donc si on regarde les 7 premières capitalisations mondiales, elles sont toutes des plateformes numériques aujourd'hui. 5 américaines et 2 chinoises. Les 2 chinoises sont Alibaba et Tencent. Mmh. Il y a une volonté, effectivement, de puissance, et c'est probablement ce qui fait défaut à l'Europe, c'est-à-dire que la maîtrise de la donnée, des systèmes de données, c'est lié à la volonté de puissance, à la projection dans la puissance. Mais il y a aussi en Chine des efforts actuellement sur la construction des systèmes d'adaptation au changement climatique, le développement d'un PIB vert, et dans les efforts qui sont faits, qui sont déployés autour du personal scoring, et qui sont éminemment critiqués, il y a aussi l'émergence de systèmes qui permettront de mesurer l'empreinte écologique des citoyens ou des entreprises ou des responsables dans l'administration publique. Donc c'est un acteur majeur. À mon avis, si je devais faire un pari, je ferais le pari que l'avenir des modèles économiques numériques se construit en Chine aujourd'hui plus qu'aux États-Unis.
Serge Sur, un commentaire.
Alors, peut-être plus généralement revenir sur la situation de l'Europe, parce que jusqu'en 1945, la science était européenne. C'est là où se produisait l'innovation, où se produisaient les découvertes. Et après 1945, elle est devenue américaine. Elle est devenue américaine sans cesser pour autant d'être européenne dans une certaine mesure, parce que les États-Unis ont bénéficié d'une grande attractivité. Ce sont des savants, des chercheurs d'origine européenne qui sont partis aux États-Unis, et on voit bien que les États-Unis pratiquent intensivement le brain drain, c'est-à-dire qu'ils attirent les cerveaux parce que ils ont les laboratoires, parce qu'ils ont les moyens, parce qu'ils ont les crédits, parce qu'ils ont la volonté de le faire. Et l'Europe est restée très en amont, en dépit des tentatives qui ont été faites. Je pense par exemple au projet Eureka qui avait été développé par le président, proposé par le président Mitterrand à l'époque de l'IDS, et l'IDS a joué quand même un grand rôle dans la relance de la recherche américaine, l'initiative de défense stratégique, ce qu'on a appelé la guerre des étoiles, mais qui en fait était l'amorce de pas mal de révolutions technologiques qui sont produites ultérieurement. Et aujourd'hui, c'est d'ailleurs cette supériorité technologique qui a assuré la victoire des États-Unis sur l'URSS. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient surclassés technologiquement et qu'ils n'avaient pas les moyens de résister à cette concurrence. C'est ce qui a provoqué les réformes de Gorbatchev et finalement la chute de l'URSS. Aujourd'hui, la Chine semble en passe de relever le défi. Elle a été jusqu'à présent, très largement, une économie d'imitation de l'économie américaine. Et dans ce que disait M. Stefan Grumbach, il y avait encore l'idée d'un certain parallélisme entre les démarches américaines et les démarches chinoises. Aujourd'hui, elle se lance dans l'innovation. Et elle entreprend de concurrencer véritablement les États-Unis et peut-être de les battre sur leur propre terrain. Alors, c'est un grand risque que la Chine prend, parce que les États-Unis relèvent ce défi. Et on critique beaucoup l'administration Trump, mais au moins, elle est consciente de ce défi et elle commence à le relever. Alors, est-ce que la Chine sera en mesure de s'opposer aux États-Unis compte tenu de leur puissance intellectuelle et de leur capacité d'attraction de tous les chercheurs et savants mondiaux? C'est pas du tout évident. Et je note que en Chine même, il y a des doutes sur ce plan et qu'un certain nombre de milieux considèrent qu'il est prématuré de se lancer maintenant dans une compétition avec les États-Unis et qu'il faut mieux adopter une ligne plus modeste. Mais je note qu'on est dans l'amorce de cette compétition États-Unis-Chine et je ne donnerai pas la Chine gagnante a priori.
Alors plus qu'une amorce tout de même, bien évidemment je vais vous donner la parole Emmanuel Kiva, juste pour souligner qu'en dehors de la Chine et des États-Unis, il y a d'autres pays qui effectuent des investissements significatifs en matière d'intelligence artificielle. Tout cela, ce sont des budgets monstrueux en termes de recherche et développement, je suppose, donc tout le monde ne peut pas se le permettre, je ne sais pas, vous allez me le confirmer. Il y a le Canada, Israël, la Corée du Sud, le Royaume-Uni, mais enfin tout de même, globalement, l'Europe, elle pâtit de sous-financement et d'investissement et de la recherche dans ce domaine, en comparaison des États-Unis et de la Chine.
Alors, plusieurs commentaires. D'abord, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est aujourd'hui, la Chine sort de son profil d'imitateur en chef et veut s'assurer la maîtrise de sa technologie et d'ailleurs la maîtrise de ses composants. La maîtrise du fait de faire des puces électroniques, c'est quelque chose qui est relativement critique, que les États-Unis savent faire, qu'on a souvent dénié à la Chine. Vous savez qu'il y a des accords ITAR sur l'exportation d'armement qui empêchaient d'exporter des processeurs trop puissants en Chine, bien la Chine réagit et développe sa propre technologie. Donc on est vraiment dans une autre perspective. D'autre part, sauf erreur de ma part, la Chine vient d'annoncer qu'elle a dépassé les États-Unis en termes d'investissement dans des sociétés portant sur l'intelligence artificielle cet été.
En termes de budget.
En termes de budget et en termes d'investissement dans l'économie privée de l'intelligence artificielle. Donc effectivement, on a cette course et je suis d'accord avec vous. Les États-Unis, qui sont plutôt dans une logique de R&D assez colossale, financée par des agences comme la DARPA ou par des agences comme l'Office of National Research, par le financement d'universités, c'est à coût de milliards de dollars. Mmh. Pour vous donner un exemple, la DARPA, qui est l'agence américaine pour la recherche avancée en termes de défense, elle a un budget de plus de 3 milliards, c'est-à-dire plus que le budget de la dissuasion nucléaire française. Et ce n'est qu'une agence parmi les autres. Et puis, en face de ça, vous avez d'autres acteurs. Vous parliez d'Israël. Israël est plutôt dans une logique d'hypersegmentation. C'est-à-dire qu'ils ont effectivement des technologies dans lesquelles ils vont aller très très loin, mais ils vont pas explorer tous les possibles. Et finalement, l'Europe est entre les deux. On a des très bons scientifiques. On est sans doute, et sauf erreur de ma part, la deuxième nation pour la médaille Fields, hein, derrière les États-Unis. Ça montre quoi ? Ça montre qu'il faut se coordonner, qu'on ne pourra pas tout faire tout seul. Je pense qu'il y a deux choses à faire. Il y a, d'une part, concilier l'innovation de défense, en particulier, avec la capture de l'écosystème civil. Le fait que, un programme d'armement, ça prend des années, mais il faut pouvoir y injecter de l'innovation de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus fréquente. Et puis, d'autre part, on peut pas tout faire tout seul. Il va falloir faire des choix. Et ces choix vont être générateurs de ruptures stratégiques. Donc, est-ce qu'on va, avec nos alliés européens, dans le quantique ? Est-ce qu'on va dans l'hypervélocité ? On y est déjà. Il y a évidemment déjà un certain nombre de programmes qui sont réalisés. Mais il va falloir faire des choix. Mais ces choix, il faut les faire maintenant. Et effectivement, on a devant nous un défi qui est de fédérer les différentes initiatives européennes par rapport à des pays qui, eux, ont fait des choix différents, d'y aller, j'allais dire, en masse, comme les États-Unis ou la Chine, ou d'y aller de manière extrêmement précise et répondant à leurs besoins, comme par exemple Israël.
Alors, Stéphane Grumbach, un commentaire ?
Bien malin qui peut dire comment cette aventure entre la Chine et les États-Unis se terminera, bien sûr. Mais il faut regarder les éléments qui nous permettent d'analyser cette situation et la position de l'Europe. Je crois que ce qui manque fondamentalement à l'Europe, c'est un projet, une vision de son futur. Cette vision, elle existait dans l'après-guerre. Quand on relit les grands textes de l'après-guerre, la déclaration de Schuman, ou bien les textes fondateurs de certaines organisations des Nations Unies, ils sont absolument extraordinaires de projets. C'est des utopies dont une partie a été mise en œuvre. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de cela. Donc, c'est ça qui caractérise la Chine. Elle se projette dans le futur, elle se projette dans la puissance, elle renoue avec sa grandeur passée, sa vision de sa propre histoire. Et le développement scientifique et les technologiques est perçu comme symbole de progrès, comme il l'a été chez nous autrefois. Ça, c'est un vecteur absolument incroyable. C'est un peu moins le cas aux États-Unis et très peu le cas chez nous. Je crois que pour l'Europe, c'est très compliqué. On le voit sur l'économie des plateformes, parce que les plateformes gagnent du terrain, elles rentrent dans de nouveaux secteurs, etc. Mais l'Europe ne se positionne pas dans ces nouveaux secteurs. La santé et l'éducation, par exemple, risquent de basculer sur des plateformes américaines à brève échéance. Mais nous ne nous organisons pas pour ça, faute d'avoir une vision cohérente et une projection dans un futur qu'on construit. Je crois que ça c'est vraiment la faiblesse de l'Europe et la force de la Chine.
Alors c'est peut-être avec ce constat sur la faiblesse de l'Europe et la force de la Chine que cette édition se termine. Merci à nos invités. Stéphane Grumbach qui était avec nous par téléphone depuis Lyon. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à l'INRIA, spécialiste des données, co-directeur de l'Institut des systèmes complexes à l'École normale supérieure de Lyon. Serge Sûr, directeur de l'annuaire français de relations internationales et rédacteur en chef de la revue Questions internationales, dont le dernier numéro a pour titre « Révolution technologique d'un monde à l'autre ». Et Emmanuel Kiva, entrepreneur, officier de réserve et futur directeur de l'Agence de l'innovation de défense du ministère des Armées. Emmanuel Kiva, qui s'exprimait en son nom personnel. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Véronique Durand et Sophie Janin. À demain.